21 juillet, nous allons d'abord demander à Dieu qu'il soit notre aide. Ô Dieu, nous sommes sous ton regard, en ta présence, et nous te demandons de captiver nos pensées et de les amener toutes à l'obéissance du Christ. Que ce que tu veux nous dire puisse vraiment pénétrer nos cœurs. Nous avons soif de ton enseignement et nous le trouvons dans ta parole qui est la vérité. Donne-nous de ne rien y ajouter et de ne rien retrancher. Fais-nous voir la beauté de cette parole et donne-nous de l'aimer. Quand des résultats de ce camp soit vraiment de retrouver à cette parole le goût d'un gâteau au miel, alors que peut-être elle était devenue pour nous semblable à un gâteau à l'huile, ou même que nous étions dégoûtés de ce pain misérable, comme tant d'hommes dans ce monde, qui n'ont que mépris pour ta parole. Redonne-nous cette joie en ta parole. Et fais-nous découvrir qu'elle est réellement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier dans ce monde de ténèbres. Pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, je pense, mes amis, qu'en lisant ce chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, vous avez éprouver le désir de vous rappeler les chapitres précédents, les vérités qui vous avaient frappé. Ce ministère de la loi qui avait été donné à Moïse, un ministère glorieux, pensez donc, Dieu, et qui condescend à écrire ses pensées, ses désirs, sa volonté de son propre doigt sur des tables de pierre et qui confie cette loi à un homme comme Moïse pour qu'il enseigne tout un peuple. C'est un acte déjà glorieux que Dieu condescende à parler à un homme et que Dieu condescende à écrire en lettres compréhensibles sa pensée. Il n'a pas simplement laissé aux hommes leur conscience pour les diriger, parce que il a été prouvé que même avec une conscience qui leur est venue de Dieu, eh bien les hommes n'ont pas suivi leur conscience. La conscience d'un homme peut crier très fort, mais pourtant, on ne suit pas sa conscience. On fait taire sa conscience. Alors, Dieu va nous donner avec plus de précision encore sa loi. Et il la donne dans un resplendissement de gloire. Il suffit de relire ces textes pour voir ce que saint Paul rappelle au sujet de la gloire de Moïse sur la sainte montagne du Sinaï. Mais il a été révélé que ce ministère de la loi était un ministère de condamnation, un ministère de mort, et que, au lieu de donner la vie à ce peuple, il apportait la condamnation. Parce que Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, ni sa conversion, sa vie, ne va pas laisser les hommes sous la loi. Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise, mais la loi a fait son œuvre, elle a convaincu maintenant les hommes, elle leur a montré qu'ils étaient incapables de faire la volonté de Dieu et de parvenir par eux-mêmes à la gloire de Dieu. Mais il a fallu du temps pour que l'homme se rende compte de cette incapacité. Séparé de Dieu, il ne peut rien faire. Il a encore des notions au sujet de Dieu, mais il est incapable de plaire à Dieu. Il ne le peut pas. Il n'est plus que chair. Au fond, la chute de l'homme, c'est ce moment où, par son attitude de désobéissance à Dieu, il est retombé sur lui-même. C'est ça la chute. L'homme n'est plus que chair, dit l'Éternel dans la Genèse au chapitre 6. Et n'étant plus que chair, il ne peut pas lui-même se relever. Mais il a pourtant la prétention de se relever. Alors il fait des efforts. Et dans ses efforts, il se tue. Il a la prétention, malgré tout, d'accomplir des œuvres qu'il veut présenter à Dieu, comme un Caïn, qui pense que le produit de ses efforts va satisfaire Dieu. Et il y a longtemps que ce verset qui n'est pas biblique a un grand succès. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Et puis il faut que tu fasses ton salut. Eh bien, le ministère de la loi a été concluant. Ministère de condamnation, ministère de mort. Parce que le salaire du péché que la loi a manifesté, elle a manifesté le péché de l'homme dans toute son horreur et dans toute sa puissance. Et elle a manifesté aussi la faiblesse de la chair. Bien, la loi doit avoir son accomplissement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé son Fils au temps convenant. Il est venu et lui a introduit le ministère de la justice. Dieu a manifesté en Jésus sa justice. Voilà un homme qui a parfaitement accompli la loi pour que nous puissions voir dans une vie humaine ce que c'était que la volonté de Dieu. Elle ayant parfaitement accompli, il ne donne pas simplement un exemple à l'humanité, mais c'est lui qui l'a vécu, il nous montre qu'il l'a vécu pour nous, et c'est lui qui nous l'a donné. Mais pour que nous ne vivions pas avec deux vies, la sienne et la nôtre, il accepte de prendre la nôtre pour que nous en soyons débarrassés, et il meurt sur la croix avec la nôtre, parce que s'il était mort simplement avec la sienne, c'était une impossibilité, il ne pouvait pas mourir. De sorte que c'est vrai de vrai que Jésus est mort avec notre vie. Parce qu'en fait, il ne serait pas mort. Il est mort avec notre vie. Et notre vie, c'était une vie de péché. C'est pourquoi notre péché, il a été jugé. Ce péché que nous avons commis dans la chair, il a été jugé dans la chair. Mais dans quelle chair? La chair d'un autre. La chair de Jésus. En fait, c'était notre condamnation. Mais ce péché que nous avons commis dans la chair, il a été jugé dans la chair. Une chair en ressemblance de péché. Une chair qui était sans péché, mais qui a pris notre péché. Il n'y a pas de péché en Jésus. Il n'y avait pas de péché en lui. Mais il avait nos péchés sur lui. Et c'est pourquoi maintenant cette question du péché est réglée. Définitivement à la croix. Et là, Jésus nous montre que la justice de Dieu a été satisfaite. Et Dieu, en ressuscitant son Fils, nous donne la preuve que cette œuvre de Jésus est réellement acceptée par lui, et c'est pourquoi la résurrection du Christ est pour nous la preuve évidente de notre justification. Il est mort pour nos fautes, c'est fini la question du péché, et il est ressuscité pour notre justification. Nous voici donc maintenant justifiés. Et alors, justifiés, c'est maintenant le ministère de la justice que nous apprenons à connaître. Et ce ministère de la justice est appelé aussi le ministère de l'Esprit. C'est du Seigneur que nous avons la justification, mais le Seigneur, c'est l'Esprit. Et maintenant, nous sommes sous le ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va agir en nous, c'est l'Esprit qui verse l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est l'Esprit qui nous fait marcher, c'est l'Esprit qui nous fait aimer, c'est l'Esprit qui nous fait produire du fruit. Dans le chrétien, ce n'est jamais le fruit de la chair. C'est le fruit de l'Esprit. Ce qui est manifesté de mauvais en nous, comme chrétiens, ce sont les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, eh bien, elles sont toutes souillées. Quand un chrétien a encore la prétention de pouvoir produire par lui-même des œuvres, ce sont des œuvres qui, aux yeux de Dieu, sont des œuvres mortes. Et non seulement des œuvres mortes, mais quand nous croyons avoir quelque justice encore en nous, la meilleure de nos justices apparaît aux yeux de Dieu comme un linge souillé. Alors il en est bien fini avec l'homme, il en est bien fini de toute gloire pour la main. C'est un message que le monde déteste. C'est un message que le monde refuse. C'est un message qui les scandalise de dire qu'il n'y a plus rien de bon en l'homme. Il ne veut pas entendre cela. Au contraire, il veut que vous trouviez ce qu'il y a de bon en vous et que vous le fassiez sortir, que vous l'exaltiez. Et l'on s'attend alors à ce que Dieu va sublimer cela. Il n'est jamais question de sublimation. Nous l'avons dit hier, il est question de crucifixion. Il n'est pas question de sublimer le vieil homme, il est question de crucifier le vieil homme. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de mettre ce vieil homme à la croix et de tenir notre chair dans la mort. Non seulement le rôle du Saint-Esprit a été de nous convaincre que c'est Jésus qui a pris nos péchés et nous convaincre nous-mêmes de péchés, mais nous a convaincu aussi de la justice de Dieu, que c'est en Jésus maintenant que nous sommes parfaitement justifiés, à un point que Dieu serait injuste de nous condamner. Quelqu'un a été condamné pour nous, c'est fait. Dieu serait injuste de condamner un pécheur qui croit au Sauveur. C'est quelque chose de merveilleux et qui nous pousse à l'adoration. Mais si je suis ainsi justifié, c'est pour que je puisse maintenant servir à la gloire de Dieu et que Dieu trouve enfin en moi quelqu'un en qui il puisse accomplir ses œuvres. Comme il accomplit tout ce qu'il veut dans la nature, il voudrait aussi pouvoir accomplir tout ce qu'il veut en nous, pour que nous devenions vraiment à la louange de la gloire de sa grâce. Mais tout ce qui va faire le travail, c'est lui. Et vous retrouverez toujours cette pensée dans une épître. C'est lui qui fait. C'est Dieu qui fait. alors c'est toujours laissons-nous faire. Laissons-le accomplir son œuvre. Et maintenant, dans la fin de ce chapitre 3 que je viens d'évoquer, vous avez vu que en contemplant le Seigneur, c'est ça le rôle du Saint-Esprit, nous sommes transformés. Non pas nous nous transformons, j'insiste sur cela. Nous sommes transformés. Alors notre seul désir, c'est que réellement il fixe nos yeux sur Jésus. Mais sur quoi vos yeux sont-ils fixés? Et si vous pensez que vous pouvez regarder n'importe quoi parce que vous êtes assez fort, eh bien qu'est-ce que vous reflèterez? Si vous mettez les abominations devant vos yeux, c'est pourquoi il y a même bien des parents qui se sont séparés de la télévision, parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler les programmes pour leurs enfants, et ils se sont rendus compte que de leur petite enfance, on avait mis les abominations devant les yeux de leurs enfants. Alors, remplissant les pensées même des petits-enfants, que voulez-vous qu'ils deviennent finalement? Si vous mettez les abominations devant vos yeux, eh bien, il y aura des abominations dans votre cœur. Il n'y a pas de miracle. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est quelque chose de radical qu'il nous faut. Mais si nous ne voulons pas, ben nous serons toujours dans le mélange. Et si nous pouvons penser que nous pouvons tout voir et tout lire, bien nous reflèterons ce que nous voyons et ce que nous lisons. Alors ne nous plaignons pas et ne demandons pas que le Saint-Esprit nous baptise par-dessus tout cela. Hein? Pour donner quoi? Gloire à quoi? À la chair, toujours. Il est question de savoir réellement nous dépouiller. Vous n'êtes plus débiteur à la chair pour vivre selon la chair. C'est pourquoi il nous faut réellement revenir à la croix et comprendre qu'à la croix nous n'avons pas simplement un Jésus sauveur, mais un Jésus qui nous a pris avec lui dans sa mort. Et que sa mort c'est notre mort. Et que nous avons à nous tenir. Qu'est-ce que nous avons à faire? Vous l'avez demandé, eh bien à nous tenir pour mort. À nous tenir pour mort, à nous considérer comme mort. C'est fait. Mort au péché, le péché n'a plus de puissance sur un mort, mais dans la foi. C'est pourquoi il est dit qu'on est sauvé par la foi. Mais ce n'est pas simplement que le Seigneur Jésus est qui sera sauvé, ça, hein, être sauvé par la foi. Mais pour la foi, pour vivre une vie de foi quotidienne. C'est pourquoi je vous dis que le salut, c'est quelque chose de quotidien. Ce n'est pas le souvenir d'une conversion il y a X années. Le salut, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que je demande au Seigneur de réaliser cette mort. Moi, je ne me sens pas mort. Hein? Mais tu l'as dit, Seigneur. Eh bien, que je réalise cette mort dans la foi. Et c'est là le seul chemin de la délivrance. Je suis mort. Et je veux en prendre conscience. Que c'est là la vérité. Que je ne suis plus débiteur à la chair. Et que c'est vrai que le Saint-Esprit met ma chair dans la mort. Et si moi, je ne suis pas assez capable de porter toujours partout où la vie de la chair voudrait se manifester la mort de Jésus, qu'est-ce que Dieu permettra pour m'aider de me livrer à la mort, pour m'amener dans cet état de dépendance? Jésus, lui, il n'avait pas besoin d'être livré à la mort. Parce qu'il venait d'en haut, il était le Saint du Père, et il passait dans ce monde, proche de toutes les souillures, mais séparé je veux dire proche de tous les pécheurs, de toutes les âmes, mais séparé de toutes les souillures. Alors, il ne s'arrêtait pas sur le chemin des pécheurs. Il ne s'asseyait pas au siège des moqueurs. Il passait près des pécheurs. Il leur apportait sa parole. Et ceux qui écoutaient sa parole se mettaient à le suivre. Mais lui leur disait où il allait. Où? À la mort. Et où il les conduisait? À la mort. Tu veux me suivre? Renonce à toi. Prends ta croix. Tu vas subir mon sort. Et c'est vrai que dans la mort du Christ, nous mourons avec lui. Mais aussi, dans sa résurrection, nous vivons avec lui. De sorte que maintenant, ma vraie vie, notre vraie vie, c'est celle de Jésus. Mais justement, Jésus sur la terre, il n'avait pas d'attrait, il n'avait pas d'apparence en lui pour le faire désirer. Et nous, nous voudrions être des désirables. Nous voudrions être des gens qui plaisent pour apporter même le message du Seigneur. Lui, pour apporter le message de Dieu, qu'est-ce qu'il a été? L'homme de douleur. Celui de qui on cache le visage. Celui pour lequel on n'a que mépris. Alors, comme le Seigneur connaît très bien nos tendances, et que nous avons tellement de peine à porter partout dans le corps la mort de Jésus, dans la foi, hein, là où la vie de la chair voudrait se manifester, je suis mort. Non, là, tu ne le fais pas. Je suis mort. Je suis mort. Je le crois, Seigneur. Tu l'as dit, je me considère comme mort. Et puis, quant à ce monde, je suis crucifié. Et puis le monde aussi m'est crucifié. Qu'est-ce que le monde peut apporter à un crucifié? Du vinaigre. C'est ça qu'on a donné au Seigneur. Mais est-ce que c'est du vinaigre pour vous le monde? Bien plus vous vivez dans la communion du Seigneur, dans une communion intime, vous vous rendez bien compte que le monde ne vous apporte que du vinaigre dans votre souffrance. Alors, je suis crucifié au monde et le monde me crucifie. Mais on vous dit, oui, il faut faire quelque chose pour le monde, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Qu'est-ce qui a fait quelque chose pour le monde? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Et si le monde ne veut pas recevoir cette vie, c'est pas vous qui pourrez faire quelque chose. Vous n'allez pas transformer le monde. Mais chaque fois qu'une âme accepte Jésus, eh bien c'est une amputation qui est faite au monde. Cette âme n'est plus du monde, mais appartient au Seigneur. Cette âme est détachée de la carrière du monde et appartient maintenant au Seigneur. C'est pourquoi il est absolument normal que vous vous sentiez des étrangers dans le monde. Avant, vous aviez une ancienne manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, comme nous l'avons lu hier. C'était normal que vous fassiez toutes ces choses. Mais maintenant, vous êtes étrangers à ces choses. Et ces choses que vous faisiez ou qui vous caractérisaient, eh bien maintenant, vous en avez honte. Ce sont les œuvres des ténèbres, même si aujourd'hui on les met en pleine lumière et qu'on veut tout justifier. Au nom du soi-disant amour. Quelle abomination. Bien maintenant, le Seigneur, dans sa grâce, permet que ses serviteurs, que ses enfants, passent par toutes sortes d'épreuves. Vous comprenez maintenant le chapitre 4? Cette vie paradoxale, celui qui a fait lever sa lumière dans vos cœurs, celui qui a mis ce trésor merveilleux de la vie éternelle, il l'a mis dans un vase de terre. Et il permet que ce vase soit scellé. il ne permettra pas qu'il soit brisé avant le temps, mais il permet qu'il soit scellé pour que le monde qui vous regarde puisse bien reconnaître que ce que vous avez ne vient pas de vous. Que l'excellence de ce trésor et de cette puissance qui vous est donnée ne vient pas de vos forces naturelles, mais vient de ce que vous vous laissez faire par le Seigneur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça va trop bien pour nous, quand nous n'avons pour ainsi dire pas d'épreuves, qu'est-ce qui arrive? Nous commençons à manquer de dépendance de la part de Dieu et nous agissons nous-mêmes. Mais quand vous êtes dans l'épreuve, dans une situation difficile, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez à Dieu. Vous criez à Dieu. Vous suppliez Dieu. Et c'est le temps de la plus grande bénédiction. Alors, ne murmurez plus contre les épreuves. Mais bénissez le Seigneur pour tout ce qui vous brise, pour tout ce qui vous humilie. C'est que Dieu vous aide à vivre la mort de son Fils. Portons toujours partout la mort de Jésus. Si vous n'avez pas assez de force pour porter cette mort de Jésus dans la foi, le Seigneur vous met dans une certaine situation, dans une certaine condition, où lui peut réaliser sa pensée. Parce que tant que vous aviez vos membres, bien vous étiez souvent tenté d'employer tous vos membres pour vos satisfactions. Et une fois que vous êtes un peu paralysé, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, eh bien vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de mes membres? Et puis vous vous livrez au Seigneur. Bien, livrons-nous au Seigneur et bénissons-le pour ses épreuves qu'il nous donne. Et alors, nous commencerons de plus en plus à lui ressembler. Et même si nous avons des épreuves, même si nous nous sentons étrangers sur la terre, ce sentiment d'être étranger nous fait désirer quoi? Notre patrie céleste, la maison du Père. Alors, en contemplant le Seigneur, il y a déjà une transformation qui se fait. Mais la transformation, ce n'est pas encore la conformité parfaite. C'est un travail qui s'accomplit par le Saint-Esprit de gloire en gloire. Nous lui ressemblerons davantage. Il y a progrès, non pas d'une chair qui s'améliore, mais de la vie de Jésus, notre homme intérieur. L'homme intérieur qui se trouve dans cet homme extérieur, dans ce vase de terre, ce corps qui dépérit, mais l'homme intérieur va grandir de jour en jour. Et l'homme intérieur, c'est qui? C'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau. C'est Jésus en nous. Alors, Jésus en nous doit grandir, doit se développer. Et il se développe par le Saint-Esprit. C'est pas nous-mêmes qui pouvons développer l'homme intérieur. C'est si nous laissons le Saint-Esprit agir. Aujourd'hui, nous dit l'Esprit, laissons-le agir. Alors, qu'est-ce qu'il arrivera? Eh bien, un jour, nous ne serons plus sur la terre. Un jour, le Seigneur sera venu, et il transformera le corps de notre humiliation, Philippiens 3, verset 18, en la conformité de son corps de gloire. Nous aurons un corps semblable à celui du Seigneur. Et nous serons réunis au Seigneur, dans les cieux des cieux, là où il est. C'était sa volonté. Père, je veux que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Est-ce que c'est là votre espérance? Est-ce que vous réjouissez de quitter ce monde? Mais vous allez dire, ben, si c'est simplement mourir, non, mais c'est justement pas ça. Et c'est cela qui est magnifique dans le chapitre 5. L'espérance c'est autre chose que la mort. La bienheureuse espérance, c'est le retour du Seigneur. Et il y a une génération de croyants qui, dans ce monde, n'aura pas besoin de passer par la mort, mais connaîtra cette transformation en un instant, en un clin d'œil, ces corps mortels qui nous caractérisent, ces corps de misère, seront transformés, transmués, et connaîtront ce corps de gloire, ce qui est appelé ici notre domicile céleste. Nous n'entrerons pas avec notre corps de chair et de sang dans le ciel. Mais non seulement les vivants seront transformés, mais nos morts, les morts qui sont morts dans la foi, seront ressuscités, et eux aussi, à ce moment-là, connaîtront ce corps glorieux. Et alors nous le verrons tel qu'il est. C'est là la conformité au Christ. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est décrite, ah, nous n'avons pas seulement la vision des choses visibles, qui ne sont que pour un temps, nous ne sommes pas pour toujours sur la terre. Il n'y a pas d'espoir, dit l'Écriture, de demeurer pour toujours ici-bas. Est-ce que ça vous désole? Moi, ça me console. Il n'y a pas d'espoir de demeurer toujours ici-bas. Où est notre espoir? C'est d'aller vers le Seigneur. C'est pas d'aller au cimetière. Hein? C'est d'aller vers le Seigneur. La mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne. Ce que nous espérons, c'est la venue du Jésus. Alors, notre corps est donc comparé à une tente. L'apôtre Pierre, dans le chapitre 1er de sa deuxième épître, parle aussi de son corps comme étant une tente. Et il dit, le moment de déposer ma tente est arrivé. On dresse une tente pour un temps, puis quand on part, on plie la tente, n'est-ce pas? Alors, considérez donc votre corps comme une tente. Cette demeure terrestre, quand on pense, tout ce que vous mettez sur la tente, tout ce badigeon, encore si c'était pour la rendre imperméable, mais la moitié du temps, c'est pour qu'on regarde la tente, qu'on voit la beauté de la toile. Vous connaissez ça? Et on perd un temps pour cette toile. Ce n'est qu'une tente. Puis vous négligez l'homme intérieur. Vous mettez tout sur l'homme extérieur. Comprenez-vous? Jésus ne regardait pas l'homme extérieur. Il n'avait aucun éclat, aucune apparence en lui pour nous le faire désirer. Mais nous, ah, les chrétiens, il faut qu'on nous voie. Il faut que nous soyons beaux. Beau de quelle beauté? La beauté du diable. Parce que le diable qui est le prince de ce monde et qui conduit toutes les modes. Alors que le Seigneur a aussi une mode. Et avec le Seigneur, c'est toujours correct. Il y a toujours l'équilibre. Et on le remarque. On ne se fait pas remarquer, mais lui est remarqué en vous. C'est là la question. Est-ce que vous voulez vous faire remarquer, attirer les yeux sur vous, ou bien est-ce que vous voulez que le monde ait les yeux attirés sur lui? Alors vivez de cette expérience. Si ma tente, ça c'est une certitude, si mon corps doit retourner à la poussière, c'est les détruits. Je sais une chose. J'ai un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. Vous voyez, l'apôtre se sert toujours des exemples du désert. Israël campait dans le désert. Chacun avait sa tente. Hein. Mais au milieu de ces tentes, qu'est-ce qu'il y avait? Un tabernacle. Et ce tabernacle était l'image de quelque chose qui était sur la terre? Non. Dieu avait donné à Moïse un modèle de ce qui est dans les cieux. Alors, c'est donc le tabernacle qui était la demeure de Dieu dans le désert. Ensuite, ça a été le temple de Salomon. Et ensuite, quel a été le vrai tabernacle que les gens ont pu voir, où Dieu a vraiment tabernaclé, si on employait le mot, parmi les hommes? C'est l'incarnation. Donc, j'ai essayé de vous dire quelque chose. Il a d'abord vécu au milieu des hommes dans une tente, puisque les hommes étaient dans des tentes. Ensuite, quand les hommes étaient dans une ville, il a consenti à habiter dans un temple, temple de pierre. Mais il a voulu plus, il est venu habiter dans un temple de chair. Et en Jésus, Dieu était en Christ. Oui, Dieu était en Christ. Et il était là, en lui. Alors, le corps de Christ maintenant ressuscité est dans le ciel, le modèle de ce que seront nos corps. Le fait que Jésus est ressuscité et est dans le ciel, il est les prémices de ceux qui sont endormis, de ceux qui sont morts, de sorte que quand je m'endors en Christ, je sais qu'un jour, j'aurai un corps semblable à celui du Seigneur. Alors, dans cette tente, verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente. Le Seigneur Jésus, en ayant revêtu notre corps de chair, il a gémi aussi, parce qu'il avait revêtu, quoique sans péché, une chair semblable à celle du péché, et il souffrait de la faim, il souffrait de la soif, il souffrait de la fatigue, il n'avait que 33 ans et on lui en donnait 50, dit l'Écriture. Et il n'y avait pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il avait des moments où il manquait de sommeil humainement, et il dormait au milieu d'une tempête, et il fallait encore que les disciples le réveillent, et qu'ils s'endormaient toujours. Même quand c'était tellement beau, il y avait une vision sur la Sainte Montagne, il s'endormait. Mais Jésus, au sein de la tempête, fallait le réveiller. On est capable de voir les tempêtes, hein, d'avoir peur de la tempête, mais capable d'avoir une vision glorieuse, ça endort. Essayer de comprendre la prédestination, c'est un sujet trop important. C'est un sujet qui ne va pas nous endormir, mais qui va nous pousser à l'adoration quand on le saisit. Et vous devez connaître ça. Vous devez connaître ces vérités. Pour que les racines de votre salut soient dans l'éternité, non pas dans votre décision. Comprenez-vous? Parce que si les racines de votre salut sont dans votre décision d'un certain jour, quelque temps après, ça va branler. Il faut que vous sachiez que vous avez été aimé de Dieu de toute éternité et que, sachant que vous acceptez le Christ, Dieu vous a élu en lui dès avant la fondation du monde. Mais alors, si vous êtes élu, c'est pour accomplir un service. Un homme qui est élu, il est plus libre de faire ce qu'il veut. Il doit travailler pour quel gouvernement? Le gouvernement qu'il a élu. Il est maintenant élu. Alors, nous sommes maintenant du ciel, puisque nous sommes participants de cette élection. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste. Et là, second révisé a bien traduit, par-dessus l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui ne connaîtra pas la mort. Et nous désirons, au fond, revêtir notre domicile céleste par-dessus. Donc, nous ne désirons pas être dépouillés simplement de notre tente. Nous ne désirons pas mourir. Nous savons que nous devons mourir si le Seigneur ne revient pas. Mais ce n'est pas cela que nous désirons. Nous désirons que le Seigneur revienne. Et au moment où il reviendra, hein, nous revêtirons par-dessus l'autre, nous les vivants qui demeurons, nous revêtirons notre corps de gloire. Nous serons transformés. Ainsi nous unissons dans cette tente, oui. Et il est dit, verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il y a une première explication ici. Quand le Seigneur reviendra, eh bien, si nous sommes vêtus, si nous l'avons accepté, nous revêtrons par-dessus ce vêtement l'autre. Si nous sommes vêtus, c'est que nous sommes encore en vie. Si nous sommes nus, eh bien, le Seigneur nous revêtira de son corps glorieux. Il y a une petite note ici qui dit « vêtu de notre corps et non pas dépouillé de celui-ci », c'est-à-dire déjà mort. Mais que nous soyons morts ou que nous soyons vivants, nous serons revêtus. Maintenant, il y a une autre explication aussi de ce passage. C'est que, comme nous allons le voir, tous les hommes devront comparaître devant le tribunal de Dieu. Et alors, même les morts qui seront ressuscités seront nus quand ils seront devant le tribunal de Dieu, comprenez-vous? Mais ils devront rendre compte de leurs œuvres. Mais c'est à la résurrection de jugement. Le tribunal de Christ se compose de deux phases. Il y a le tribunal pour les croyants, puis il y a le tribunal après pour les incroyants, pour ceux qui ont refusé le Seigneur. Mais ça a lieu plus tard, à la fin du monde. Tandis que le tribunal de Christ, où paraissent les croyants, c'est à la venue du Seigneur, quand il vient pour les enlever auprès de lui. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous unissons, accablés, parce que nous voulons non nous dévêtir, vous comprenez ce que ça veut dire, nous ne voulons pas mourir, mais nous revêtir, nous désirons justement ce changement, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Nous attendons du ciel Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, nous attendons du ciel de notre bourgeoisie céleste, Philippiens 3, verset 20, celui qui transformera le corps de notre humiliation en la conformité de son corps de gloire. Voilà ce que nous attendons. Il a ce pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il ressuscitera les morts qui sont en lui, qui se sont laissés revêtir au cours de leur existence, qui sont nus en ce moment quant à leur corps, mais qui auront leur corps glorieux. Et celui qui nous a formés à cela, c'est quoi? C'est nous, nos œuvres? C'est Dieu. Vous voyez de nouveau que c'est toujours attribué à Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous avons donc la certitude, nous avons déjà reçu en nous ce qui nous permettra de toucher à l'héritage final. Nous aurons un corps de gloire. Notre domicile céleste, il est déjà arrêté, hein. Il est déjà à nous, en quelque sorte. J'ai un corps en Jésus. C'est pas seulement le salut en Jésus, le salut de mon âme. J'ai aussi en Jésus le salut de mon corps. Il a payé pour que j'ai la possession totale. Nous sommes donc toujours pleins de courage, voilà, comme même devant la mort. Et nous savons qu'on demeurera dans ce corps, dans cette tente, donc en vivant, nous demeurons loin du Seigneur, et c'est vrai. Car nous marchons par la foi et non par la vue, on ne le voit pas le Seigneur. Alors quand je suis dans ce corps, eh bien, je marche par la foi. En croyant en lui, je ne l'ai pas vu, mais je l'aime, quoique ne l'ayant pas vu, vous l'aimez. Nous sommes pleins de courage. Puis alors, s'il faut mourir, bien,
Oui, l'apôtre Paul rejoint ce qu'il disait à la fin de sa vie dans la prison de Rome, dans l'Épître aux Philippiens. Nous sommes plein de courage, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit, moi, ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je sais qu'aller auprès de Christ, c'est beaucoup le meilleur. C'est la meilleure part. Alors, la mort n'est plus le roi des épouvantements. Quitter ce corps, c'est pas mourir dans ce corps. C'est le quitter. C'est le départ. Quelqu'un a traduit « déloger ». Et vous trouvez ça encore dans des faire-part de gens très pieux. Nous vous annonçons le délogement de telle ou telle personne. Alors, ça fait rire le monde, évidemment. C'est déloger. Mais c'est parce que le monde ne comprend pas. On a quitté le logement. Le logement est en ruine. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittions. La mort, c'est le moment où on le quitte. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit le bien, soit le mal. Alors là, vous devez être saisi. Nous qui croyons, nous sommes passés de la mort à la vie, hein, et nous ne viendrons pas en jugement. Mais tous, que nous soyons croyants, ou que nous soyons incroyants, tôt ou tard, nous devrons passer devant un tribunal. Pour le croyant, le tribunal de Christ, ce sera l'examen de ce qu'a été notre vie dans le Seigneur, depuis notre conversion. Tout sera manifesté. Et surtout, ne pensez pas que le monde ne connaît pas que vous avez peut-être vous-même confessé, eh bien, ne reparaîtra pas. Tout sera manifesté. Et c'est là la vérité la plus sanctifiante pour la vie d'un croyant. Vous me connaîtrez, non pas de façade, mais vous verrez ce que j'ai réellement été. Ce sera un drôle de moment. Alors vous dites, mais alors ça vaut pas la peine. Voilà, la sonnette tombe. Mes illusions tombent. Je croyais qu'on verrait ma belle face. Non, vous me verrez tel que j'ai été réellement. Et ces faces que vous n'avez jamais considérées, parce qu'elles n'avaient peut-être rien d'attrayant ou rien d'éloquent, c'est elles qui vont passer. Et c'est ces gens-là dont on n'a jamais parlé sur la terre, qui ne se sont jamais montrés eux-mêmes, et que le monde n'a pas regardé parce qu'il a méprisé ces gens-là, qui pourtant reflétaient l'humilité et l'amour du Seigneur. C'est eux qui seront manifestés et on les acclamera. Comprenez-vous la justice de Dieu? Si vous dites, mais nous serons malheureux, non, vous penserez comme Dieu pense. Et vous direz, eh bien c'est vrai, c'est juste. Et quand vous verrez, et que le monde aussi vous verra tel que vous avez été, puis que vous vous trouverez quand même là, sauvé, vous direz, ben qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce vous sera manifestée, mais alors, si vous comprenez cela maintenant, quel genre devriez-vous être? Si c'est vrai que tout cela sera manifesté, est-ce que je puis, parce que je suis sauvé, me laisser aller? Puis je me confesse. Puis avant de mourir, ben je ferai encore la confession générale. Mais je suis sauvé, le sang de Christ me couvre de tout péché. Oui, c'est vrai. Votre salut n'est pas mis en cause. Mais croyez-le, vous serez manifesté. On peut cacher une foule de choses. On peut se donner une apparence. Et voyez-vous, si nous sommes orgueilleux, si nous avons dans nos cœurs quelques chose qui déplaît au Seigneur, et nous le savons bien, nous avons tous des tendances, nous devons nous en juger nous-mêmes, et ne pas continuer à vivre là-dessus. Que le Seigneur, ce matin, mette le doigt sur la plaie de chacun de nos cœurs, parce que quand on ne se juge pas d'une chose qui déplaît au Seigneur, eh bien, tôt ou tard, cette chose se manifeste. Et si elle ne se manifeste peut-être pas dans votre vie, si vous arrivez à cacher la chose, un jour elle sera connue. Croyez-le, elle sera connue. Et alors qu'est-ce que vous perdrez? Pas votre salut, mais la couronne. Oh, quelqu'un me dit, moi j'ai pas besoin d'une couronne. Si j'en recevais une, même je m'asseyerais dessus. Je ne sais pas si la couronne a des pointes. Mais on dit, oh, mais j'aurais un corps glorieux, je ne les sentirais pas. Mais attention alors. Qu'offrirez-vous au Seigneur? Hein? Parce que si vous recevez une couronne, c'est pour la jeter à ses pieds. De sorte que ne méprisez pas les couronnes. Vous ne travaillez pas pour une couronne, vous travaillez par amour pour le Seigneur. Vous dites, eh bien, ma vie, maintenant, j'ai compris, je veux qu'elle soit au Seigneur. Soit que je vive, soit que je meurs. Nous devons avoir non seulement une vie à la gloire de Dieu, mais aussi une mort à la gloire de Dieu. Nous ne devons pas mourir n'importe comment. Eh bien, que notre mort aussi soit à la gloire de Dieu, comme nous l'avons lu ce matin, soit que nous vivions, soit que nous mourions, cherchons à lui être agréable. Alors, verset 11, vous avez la fin de ce chapitre. Connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Vous voyez, Paul vit déjà dans cette lumière qui va le manifester au tribunal du Christ. Et alors, il n'en a pas peur, parce que il dit Dieu nous connaît. Et puis, il sait aussi que les Colossiens, bien dans leur conscience, ils savent vraiment qui il est. De sorte qu'il n'a pas à se recommander de nouveau lui-même ou avec ses collègues auprès d'eux. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non de ce qui est dans le cœur. Vous voyez, on peut avoir toutes sortes d'apparences et faire parler le monde en bien de nous parce que nous gardons les apparences. Nous n'avons jamais voulu perdre la face. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, il regarde au cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, parce qu'on disait que Paul était fou, c'est pour Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à commettre des folies pour Dieu? Le monde dira que c'est de la folie ce que nous faisons. Mais c'est pour Dieu. Et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Parce que l'apôtre Paul tient un équilibre. Il ne veut pas non plus humilier les Corinthiens. Alors, à certains moments, il leur parle en étant tout à fait à leur niveau. Et puis, à d'autres moments, il va plus loin. Mais parce qu'il veut les amener plus près de Dieu. Parce que, tout en lui, c'est l'amour du Christ qui l'étreint. Nous avons discerné ceci. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que nous avons compris cela? Pénétrer de la crainte du Seigneur. Puisque nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ. C'est cela qui nous pousse à persuader les hommes. Nous avons Dieu et nos propres consciences pour garant de notre sincérité. De ce que nous ne nous recommandons pas à nous-mêmes, mais nous vous donnons plutôt sujet de vous glorifier de nous auprès de ceux qui se glorifie dans les apparences.
Car quoi que nous fassions, nous n'avons en vue que Dieu et votre bien. C'est cela que nous devons bien comprendre. Quoi que nous fassions, nous ne devons avoir en vue que le Seigneur est le bien des âmes. S'il y a des choses que nous ne faisons pas, c'est pour le bien des âmes. Il y a des choses que nous aurions la liberté de faire, mais si on sait que ça peut faire du tort à une âme, nous ne le ferons pas. Nous sommes assez libres pour nous priver de nos libertés. Comprenez-vous? C'est ça être libre. C'est penser à l'autre qui est faible dans la foi. Et le mobile de tout cela, c'est la charité du Christ, qui est mort pour tous, afin que tous meurent à eux-mêmes et ne vivent plus que pour lui. Est-ce que nous avons compris cela? Si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc considérons-nous comme morts. Et puis, maintenant, pour qui devons-nous vivre? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Tout le secret est là. Ne plus vivre pour soi-même. Mais pour qui alors? Pour le Seigneur. Est-ce que c'est ça notre vie? C'est une question. Pour qui est-ce que nous vivons? Quel est le sens de notre vie? Nous sommes engagés. Ne me parlez plus de serviteurs plein temps. Dans quelque occupation que nous soyons, nous avons à nous souvenir de cela. Et puis nos relations sont complètement changées. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce ne sont pas des relations charnelles que nous avons entre nous. C'est des relations spirituelles. Nos liens, notre affection est une affection spirituelle. Paul n'avait pas connu le Christ selon la chair. Et même s'il l'avait connu selon la chair, il ne le connaissait plus ainsi. Il le connaissait où? Dans la gloire. Et les affections de notre cœur doivent être en lui. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, non pas créature comme elle a été traduite, mais une nouvelle création. La créature, elle est toujours la même, si vous la voyez. Mais tout en lui a été créé à nouveau. Les choses anciennes, j'ai pas besoin de m'allonger, sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Tout en lui est renouvelé et tout cela vient de qui? De Dieu, pas de nous-mêmes. Ce Dieu qui était en Christ et qui a réconcilié le monde avec lui-même et qui nous a donné, quel ministère? Le ministère de la réconciliation. Par lequel, maintenant, étant réconciliés avec Dieu, nous-mêmes, nous pouvons dire, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous savons pourquoi nous pouvons le dire, parce que nous savons qu'un jour, tous devront comparaître devant Dieu. Alors, nous les croyants, nous comparaîtrons devant lui, étant vêtus de nos corps glorieux. Mais les morts aussi seront ressuscités. Mais ils s'appellent toujours les morts, hein, c'est très frappant dans l'Apocalypse. Et je vis les morts. Ils sont ressuscités, mais ils sont toujours les morts. Ce sont des gens nus, des gens qui n'ont pas été revêtus, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et ils sont jugés selon leurs œuvres. Et tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu et de soufre. Alors pour nous, est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie?
Vous me direz, mais moi, mon nom, il est écrit dans le registre d'une église. C'est peut-être bien. Mais ce n'est pas suffisant que votre nom soit écrit dans le registre d'une église pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a donc un livre, et que dans ce livre de vie, ce n'est pas le jour de votre conversion qu'il est écrit le nom. Il a été écrit dans l'éternité. Dès avant la fondation du monde, votre nom était écrit dans le livre de vie. Et pour qu'il ne soit pas effacé du livre de vie, les perdus, ce sont ceux dont le nom aura été effacé. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'auront pas accepté le Seigneur. Le nom est effacé. Moïse avait dit, efface-moi de ton livre. Ça ne pouvait pas. C'était un élu. Mais lui, il ne voulait pas être sauvé pour être sauvé. Et c'est cela que nous devons comprendre. Le si grand salut de Dieu, c'est que les autres soient sauvés. Et pour que les autres soient sauvés, vivons à la louange de la gloire de Dieu. Si les œuvres de la création impressionnent même un athée, combien plus la vie d'un chrétien pourrait l'impressionner si vraiment nous laissions Dieu agir en nous? Et quelle autorité aussi aurait le chrétien s'il pouvait parler comme Dieu veut qu'il parle? Vous êtes ambassadeur. Alors voilà, nous terminons. Vous étiez parfum de Christ. Ça ne parlait pas encore en parfum, mais ça se respirait. Vous étiez lettre de Christ. Ça ne parle pas une lettre, ça se lit. C'est encore silencieux. Puis, vous êtes devenu l'image de Christ. Elle ne parle pas, mais on la regarde, on la voit. Mais maintenant, ayant fait les preuves de la réalité de votre foi, vous pouvez parler avec autorité. Dieu vous revêt de cette autorité et vous devenez ambassadeur. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est un homme qui représente son pays dans une terre étrangère. Est-ce que c'est pour y faire de la politique? Ou de l'espionnage? Non, vous savez bien qu'on les renvoie. Alors, un ambassadeur, sa tâche, c'est de faire aimer son pays, de faire connaître son pays dans le lieu où il se trouve. Et il est rattaché constamment à quoi? À son gouvernement céleste. Et bien que ce soit là la tâche que nous aurons comprise. Mais souvenez-vous qu'on ne nomme pas ambassadeur quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves d'abord dans son pays. C'est pas n'importe qui est envoyé pour représenter son pays. Mais que la grâce de Dieu fasse d'abord de nous ce parfum, cette lettre, cette image, pour que le Seigneur ait en nous des ambassadeurs. Et puis nous verrons plus loin ce qu'il va faire de nous, plus encore qu'ambassadeurs. Alors les questions? Le groupe 1, oui.
Oui, moi, je ne peux pas penser à porter ça au groupe, mais si on sait que la personne a... Ça va connaître le, c'est quoi, le châtiment, c'est là qu'il va nous prêter vraiment ce que cette personne a connu sur des ténèbres. Ce qu'on a, ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on veut vraiment accepter ces gens. Je pense que c'est ça qu'on est prêt, je sais pas.
Oui, mais le porter aux autres en étant d'abord revêtu hein,
oui.
De ses caractères.
C'est vraiment qu'on soit un
Oui. Parce que si on va simplement avec l'idée de leur dire, vous savez, vous devez vous convertir parce qu'il y a le jugement éternel, il y a le feu éternel, vous allez rôtir. C'est pas ça. Il faut que notre vie donne le goût de notre patrie. Mais il faut que nous soyons imprégnés vraiment de ce qu'est notre patrie et aussi des habitudes de la patrie céleste. Le groupe 2. Oui.
Le message, pardon et salut, le message de la foi.
Oui.
On est bien, je vais espérer le retour du Christ, mais c'est par la foi et non par la vie, d'aller en train de faire ce qu'il y a du Christ pour faire avancer sur la terre. La raison de joie du nom ambassadeur, l'amour de Christ qui prêche, c'est Christ qui nous sommes là.
Oui. Au fond, c'est la même pensée. Hein. La raison, le mobile, au fond, ben, c'est que l'amour du Christ nous presse. Puis le message essentiel, c'est celui de la réconciliation, puisque Dieu était en Christ, puisque tout cela a été fait, tout cela a été accompli. On a un message d'autorité. Groupe 3.
C'est la même chose, la réconciliation avec Dieu, c'est le message. Ce qui est contenu dans ce message-là, c'est que Dieu a pris la responsabilité du péché sur lui, comme au verset 21, lorsqu'il dit qu'il l'a fait devenir péché pour nous. Et puis que, évidemment, il n'incite pas aux hommes leur péché. On est ennemis de Dieu par nature, et puis Dieu nous appelle à être réconciliés avec lui, il a pris l'initiative de ça. Et puis le mobile, bien, selon 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour, c'est la plus grande chose, bien, on voyait que l'amour, parce qu'on a trouvé plusieurs mobiles, mais l'amour, c'est lui qui motive, qui fait jaillir les autres mobiles, comme la crainte du Seigneur, de vouloir lui plaire, d'être agréable à Dieu. C'est ça qui fait jaillir en nous les attitudes qui sont en Dieu, comme de ne pas inciter aux hommes leur péché. Souvent, on est porté à montrer aux hommes qu'on... par nos jugements, notre attitude à leur égard, qu'on leur impute leur péché, alors que Dieu ne leur impute pas, qu'on doit manifester la même attitude, que l'homme ne se sent pas condamné par notre approche. Et puis ça, ben, c'est vraiment, ben, plus on est saisi par l'amour de Christ, plus on l'aime en retour, et puis on manifeste ces choses-là. Plus on veut l'homme se réconcilier avec Dieu.
C'est très important ce que notre ami souligne là. Dieu ne nous a pas imputé nos péchés. Alors, il ne faut pas commencer à vouloir imputer les péchés aux autres. Mais leur montrer tout cet amour de Dieu. Parce que nous savons maintenant ce que ça a été pour qu'il nous a aimés au point d'accepter le péché sur nous. Nous mettons toujours le péché sur les autres. Le Seigneur, lui, l'a pris sur lui. Et c'est en ayant ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ que nous pouvons aider les âmes. Un temps extraordinaire. C'est aujourd'hui qui vous est donné. C'est dans cet aujourd'hui, dans ce maintenant, que le Seigneur peut réaliser son dessein. C'est pas demain. Demain ne nous appartient pas. Alors, nous avons peu de temps pour que le Seigneur puisse réaliser encore en nous tout son dessein. Et si nous avons saisi quelque chose de la prédestination, c'est ce fait que nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus et que notre vie actuelle doit être à sa louange et à sa gloire. Mm-hmm.
Il y a encore un groupe? Oh. Excuse-moi.
Justement, le message, c'était la réconciliation, et parce que ça résume beaucoup de choses, ça contient beaucoup de... C'est un bon résumé parce que ça décrit bien des choses. Dans ce mobile, c'était aussi la réconciliation, en ce sens que c'est parce que nous sommes réconciliés que nous voulons reproduire le phénomène que d'autres.
Oui. Parce que nous sommes réconciliés. Alors demain, vous aurez les chapitres 6 et 7 avec ces questions. De qui et de quoi devons-nous être séparés pour être le temple de Dieu aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a une gradation. Parfum, lettre, miroir, ambassadeur, puis temple. C'est vous-même qui, là où vous êtes, devenez le temple de Dieu. Les gens devraient trouver toujours en nous le temple. Parce qu'il se trouve en nous. Puis, alors, le chapitre 7, la question, au fond, c'est la vraie repentance aujourd'hui. Question, vous étudiez vous-même, qu'est-ce que c'est que la vraie repentance aujourd'hui? Alors, vous avez donc la lecture de ces deux chapitres, demain matin, et demain, samedi matin, au lieu d'avoir des ateliers, nous aurons la plénière directement. Oui.
L'atelier de demain, c'est un heure.
Alors, c'est une heure, oui. Ça va? Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons vraiment te demander que dans cette journée, ton esprit nous rappelle les paroles que nous avons lues, que nous puissions les relire, que nous puissions nous imprégner de toutes ces vérités et qu'elles deviennent en nos vies par ton esprit agissant et qu'elles se transforment et qu'elles nous transforme. Parce que transformer en nous en réalité que nous devenions nous aussi, réalité pour toi et pour le monde qui ne voit que vanité ici-bas. Que nous devenions une réalité de ce monde invisible pour les gens qui n'ont les yeux fixés que sur les choses qui se voient. C'est notre cri, c'est notre prière, afin que nous soyons préparés pour l'heure de ce soir. En Jésus, amen.